Donc, le passage biblique de ce matin est tiré du livre des Juges, du chapitre 2 au verset 6, au chapitre 3, verset 6, dans les éditions Louis II. Alors, Juges 2, verset 6 à 3, verset 6. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas les juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qui avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. » Chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Amen.
Merci, Danny, pour la lecture. Tout un texte, hein? C'est un privilège pour moi vraiment de pouvoir non seulement vous présenter le ministère du camp, mais de pouvoir aussi vous apporter la parole de Dieu. Privilège et responsabilité à la fois. Et double responsabilité dans le sens que j'embarque dans une série déjà existante que Yannick a débutée la semaine dernière. Alors on va aller voir ce que Dieu a à nous dire à travers ce texte-là. Vous avez vu la semaine dernière avec Yannick la première introduction du livre qui nous rapporte les conquêtes militaires dans le pays promis au peuple d'Israël. Donc, l'auteur du livre des Juges nous donne une deuxième introduction qui s'attarde cette fois-ci plus au côté religieux et relationnel avec Dieu. Et c'est cette deuxième introduction-là qu'on veut regarder ensemble. Les deux introductions sont évidemment intimement liées, mais on veut voir le deuxième point de vue, le deuxième point de regard sur la situation d'Israël en période des juges, et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Donc, les premiers versets de notre texte nous parlent de la première génération qui est entrée dans la terre promise. Hein, il nous est dit que cette génération-là était fidèle à l'Éternel. On voit ça dans les versets 7 et 8. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Hein, le peuple prend maintenant possession du pays promis tout en se rappelant l'œuvre de l'Éternel. Il se rappelle tout le chemin qui a été nécessaire, qui a été parcouru pour en arriver là. Hein, il se rappelle de la délivrance de l'esclavage en Égypte. Il se rappelle de la traversée de la mer Rouge. Il se rappelle de la conduite dans le désert avec la nuée enflammée. Il se rappelle du pain qui descendait du ciel, qui les nourrissait à chaque matin. Il se rappelle de la deuxième traversée, 40 ans plus tard, la traversée à sec, encore une fois, du Jourdain. Et il se rappelle des murs de Jéricho qui ont tombé de façon miraculeuse, simplement au son des trompettes. Bref, le peuple se rappelle la bonté, la fidélité de Dieu qui les a conduits en terre promise de façon grandiose. Il se rappelle de cette œuvre de grâce que Dieu a accomplie envers eux en les délivrant de l'esclavage et en les conduisant dans le pays promis. Mais déjà, on perçoit que tout ne tourne pas rond dans le pays promis. Hein, la génération qui a été témoin de toutes ces œuvres-là de l'Éternel est sur le point de disparaître. Et une nouvelle génération est sur le point de se lever, de prendre la place. Hein, Josué, un des serviteurs de l'Éternel, modèle, a le privilège d'avoir vécu et de mourir dans le pays promis, dans le pays qu'il avait hérité. Josué et toute sa génération avec lui meurent. Qu'est-ce qui va arriver de la génération qui suit? Qu'est-ce qui va arriver de la prochaine génération? Et on lit au verset 10 et 11, « Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. » Il nous est dit que la nouvelle génération ne connaissait pas l'Éternel. Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas entendu parler de la délivrance de l'esclavage en Égypte, des traversées de la mer Rouge et du Jourdain, qu'il n'avait pas entendu parler du feu, de la nuée de feu qui les conduisait, de la manne qui descendait du ciel, le pain, des murs de Jéricho? Est-ce qu'il n'avait pas entendu parler de toutes ces choses-là? Non, certainement qu'il en avait entendu parler, mais il n'y avait pas une attitude de reconnaissance et d'adoration envers Dieu pour ces choses-là. Autrement dit, ils connaissaient les histoires de leurs parents et de ce que leurs parents avaient expérimenté, mais ce n'était pas leur histoire. Hein, ils ont oublié que s'ils sont héritiers aujourd'hui d'un pays d'abondance, ils se retrouvaient dans un pays d'abondance, mais c'est parce que Dieu avait fait grâce à la génération d'avant et que cette grâce était aussi pour eux. Ah, c'est comme si moi j'hérite de la fortune de mes parents. Ceux qui connaissent mes parents rient, mais c'est comme si j'hérite de la fortune de mes parents et que pour moi, ben, c'est normal, c'est acquis. Et je ne reconnais pas que si mes parents m'ont laissé un héritage, c'est parce que Dieu a béni avant, parce que Dieu a fait du bien à mes parents, a pris soin d'eux. Et c'est exactement ça que la deuxième génération fait. Elle oublie la fidélité de Dieu, la bonté et l'œuvre de grâce de Dieu. Et la conséquence, c'est qu'ils sont infidèles. Ils se tournent vers d'autres dieux. Ils se tournent vers des idoles. Ils se tournent vers les Baals. C'était qui, les Baals? Hein, Baal, ça veut simplement dire Dieu en cananéen. Et il y avait beaucoup de dieux en Canaan. Il y avait Baal Gad, le dieu de la richesse. Baal Amon, le dieu de la santé. Mais Baal, c'était aussi une des principales divinités cananéennes et il était reconnu comme étant le dieu de la ferme. Le dieu qui pourvoyait à la prospérité des champs et des troupeaux. Et pour un peuple d'éleveurs comme les Hébreux, c'était un dieu intéressant. Un dieu qui pouvait leur donner confort, sécurité, prospérité, bonheur, plaisir, contrôle sur leur vie, etc. Et on voit la représentation ici de Baal, le Baal des Cananéens. Alors, c'est un jeune homme, coiffé comme les rois du temps, assis sur un trône et qui fait un geste de bénédiction. Et le peuple offrait donc un culte à ce Dieu-là, se prosternait devant cette statue. Et avec nos yeux de Nord-Américain, on lit cette histoire, on entend ça, puis on a tendance à trouver le peuple un peu tata. Ah, on juge un peu. Franchement, adorer une statue, c'est assez ridicule. Hein, c'est juste une roche, ou des fois du bois. Mais est-ce qu'il était vraiment si tata que ça? En réalité, c'est pas la statue qu'il adorait, mais c'est ce qu'elle représentait, ce qu'elle pouvait leur offrir. Hein, ce Dieu peut m'offrir une récolte abondante, ça veut dire vie confortable. Hein, ce Dieu-là peut m'offrir un troupeau en santé, un troupeau qui grandit, ça veut dire réussite, reconnaissance des autres. Ce Dieu-là peut m'offrir un garde-manger bien plein, synonyme de sécurité. Bref, le peuple n'était pas tata au point de croire qu'une roche pouvait répondre à leurs besoins. Mais le peuple se tourne vers les dieux qui offrent la satisfaction dans leur propre désir. Hein, ils désiraient être confortables, ils désiraient la sécurité, ils désiraient le bonheur, etc., toutes sortes de choses. Et ils cherchent dans quelque chose de physique leur satisfaction personnelle. Et ce qu'on voit par cet exemple, c'est que l'idolâtrie prend toujours une forme physique. Dans le cas des Cananéens, c'était une statue. Mais c'était surtout des champs abondants. C'était surtout des troupeaux nombreux. Et pour nous aujourd'hui, les formes physiques de l'idolâtrie sont nombreuses. On peut penser rapidement à l'alcool, la pornographie, les jeux de hasard, mais aussi des gros salaires, une famille qui paraît bien, des gens qui nous admirent, etc. Mais ultimement, toutes ces choses-là, tout comme le peuple d'Israël, ce ne sont que des outils pour combler des désirs qui viennent de notre propre cœur, des désirs de sécurité, de respect, d'être aimé, d'être reconnu, de contrôler notre vie, d'avoir du plaisir, d'arrêter de souffrir peut-être, de se faire justice, trouver justice, d'être indépendant. Et si on regarde l'idole physique, ben, on a une attitude de jugement pour nous qui est comme en dehors de ça. Ah, on peut trouver ça ridicule d'adorer une statue. Hein, c'est tata de penser qu'on va être comblé par une machine à sous. Hein, quand on n'est pas dans cette situation-là pour nous, ouais, voyons, c'est bien ridicule. Mais quand on regarde le désir réel qui se cache derrière l'adoration de cette idole-là, eh bien, on se dit, hey, c'est bon ça. J'ai le droit de désirer la sécurité. C'est une bonne chose, la sécurité. C'est correct de désirer le respect. C'est une bonne chose de désirer la justice. Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de justice? Et c'est là que l'idolâtrie trouve sa subtilité et son pouvoir. Le désir à combler nous paraît tellement nécessaire, essentiel, légitime, qu'on est prêt à tout pour le combler, même si c'est pour un court instant. Même si c'est comblé par quelque chose de ridicule comme se prosterner devant une statue. Hein, l'apôtre Paul dirait que le peuple d'Israël a adoré la création plutôt que le Créateur. Hein, ils ont cherché leur satisfaction dans les choses physiques de la terre plutôt que dans celui qui pourvoit à ces choses physiques-là. Ils ont cru qu'ils pouvaient profiter de la richesse de la terre promise sans rendre de compte au Créateur de cette terre-là, sans adorer, respecter les ordonnances et respecter celui qui les avait conduits dans cette terre d'abondance. Bref, le peuple d'Israël n'est peut-être pas plus tata que moi puis toi. Oublier le Créateur, se tourner vers les choses physiques du monde pour trouver notre satisfaction, c'est toujours aussi réel pour nous aujourd'hui qu'à l'époque des juges. Et dans notre texte, on retrouve cet engrenage. Puis on retrouve cet engrenage-là dans l'ensemble du livre des juges. On peut passer à la prochaine Il dit, il n'y a pas un engrenage à 7 dents. Hein? Premier engrenage, première dent de l'engrenage. Le peuple oublie la bénédiction de Dieu et se tourne vers les idoles. Deuxièmement, Dieu se met en colère contre son peuple. La conséquence de ça, de l'oubli du peuple et de la colère de Dieu, c'est une oppression des ennemis du peuple. Et cela conduit le peuple à une détresse et ultimement à se repentir. Dieu pourvoit au salut du peuple en envoyant un chef pour les délivrer. Un temps de paix s'installe, le juge meurt et le cycle recommence. La roue continue à tourner, l'engrenage est recommencé. Et ce qui est intéressant dans cet engrenage, dans cette séquence-là, dans ce cycle-là, c'est de considérer, premièrement, les conséquences de l'idolâtrie. Hein, regardez l'ironie ici. Le peuple adorait les dieux des nations et ils deviennent l'esclave de ces nations-là. Le peuple désirait la sécurité en adorant les dieux étrangers et ils sont attaqués par les peuples environnants. Le peuple désirait le confort et il se retrouve dans une situation de détresse extrême. Et ça, c'est toute une leçon pour nous aujourd'hui. Lorsque le ou les désirs de notre cœur, aussi légitimes soient-ils, deviennent l'objectif ultime à atteindre, on se tourne nécessairement vers quelque chose de physique pour le combler. On se tourne vers les yeux du monde. Or, on n'est plus au service de Dieu qui nous a fait grâce. On ne cherche plus à ce que Dieu soit glorifié par notre vie d'abondance parce qu'on est tellement reconnaissant pour tout ce qu'il nous a donné, pour sa bonté, pour sa fidélité. Non, Dieu me doit quelque chose, il a oublié de me le donner, il me manque quelque chose, puis je vais aller le chercher. Je vais chercher à le combler autrement. Le désir de notre cœur contrôle alors notre vie. Hein, le désir sous la forme de quelque chose de physique prend le contrôle de notre existence. On devient esclave de nos propres désirs. Et comme le peuple qui est devenu esclave des nations en adorant les dieux de ces mêmes nations-là, ben on subit une oppression aussi lorsqu'on est idolâtre, lorsqu'on adore d'autres dieux. On subit une oppression. On perd la paix qui nous habitait. On cherchait la sécurité, le confort, la liberté, et on se retrouve inquiet, insécure, inconfortable et esclave. L'idolâtrie conduit à l'esclavage encore aujourd'hui. L'idolâtrie a des conséquences parfois évidemment dramatiques, mais parfois moins dramatiques en apparence. Mais l'idolâtrie est toujours aussi dramatique dans notre relation avec Dieu. Les conséquences sont dramatiques non seulement pour nous, mais également pour ceux qui nous entourent. Est-ce que vous avez remarqué que dans notre texte, une seule génération a suffi pour que le peuple fasse ce que l'Éternel considère comme mal, c'est-à-dire adorer d'autres dieux, adorer des idoles. Une seule génération. C'est qui est responsable pour ce gâchis-là? La génération des parents ou la génération des enfants? Puis c'est difficile de répondre à cette question-là parce que la responsabilité est souvent ou toujours partagée. Et le but, ce n'est pas vraiment de savoir, de trouver c'est à qui la faute, mais plutôt de s'examiner soi-même devant Dieu. Et j'aimerais vous lire... En fait, vous donner un exemple que David Tripp, un conseiller auteur, a dit lors d'une entrevue. Il dit ceci. Souvent, ce qui cause des relations difficiles avec nos adolescents, ce ne sont pas les changements hormonaux de nos enfants, mais ce sont nos idoles. C'est notre désir d'une vie où notre niveau de confort et de contrôle n'est pas perturbé. C'est aller au restaurant ou chez des amis sans être embarrassé. C'est des enfants qui font leurs devoirs sans jamais chialer. C'est une maison jamais en désordre. C'est un horaire qui n'est pas bouleversé parce que la direction d'école vient d'appeler parce que mon kid, il a fait une niaiserie. C'est des enfants qui n'argumentent jamais. Et malheureusement, si ce désir de confort et de contrôle-là devient la priorité dans notre vie, devient une idole, eh bien, nos enfants deviennent souvent des agents qui troublent notre confort. Ils viennent troubler notre contrôle. On les considère plus comme des enfants, on les considère comme des petits troubles à fête qui viennent déranger notre confort, qui viennent déranger notre situation. « Hey, j'étais en contrôle, là, ça allait bien, là. Pourquoi t'as fait ça? » Et ça crée des tensions. Et on s'entend dire des choses comme « Man, j'ai plus de vie. » On m'avait pas dit que d'avoir des enfants, ça voulait dire perdre sa vie. Mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous savez maintenant. Ou encore, « Mon gars, tu vas apprendre à me respecter, même si c'est la dernière chose que je t'apprends dans ma vie. » Pas sûr que c'est la dernière chose que je veux que mon gars se rappelle de moi, cette phrase-là. Mais c'est comme ça qu'on se sent, c'est comme ça qu'on l'exprime, c'est ça qu'on dit. Et David Tripp ajoute, « Quand je parle dans les églises, je mets souvent au défi les parents en disant ceci. Certains d'entre vous êtes si occupés dans votre carrière que vous êtes rarement à la maison. Et quand vous êtes présent, vous êtes tellement exténué que vous n'avez rien à offrir à vos enfants. Vous ne connaissez même pas vos enfants. Et je vous offre un défi radical. Allez voir votre patron et demandez-lui une démotion. Un poste moins payant, qui prend moins de votre temps. Déménagez de votre maison de rêve et aménagez dans une maison moins spacieuse. Vendez votre voiture neuve et achetez-en une usagée. Soyez prêts à faire ce que Dieu vous demande de faire dans la vie de vos enfants. Hein, laissez nos idoles de confort, de contrôle, de réussite professionnelle de côté pour le bien de nos enfants. C'est ça le défi radical que David Tripp donne aux parents de notre génération. Et moi, quand j'entends ça, personnellement, ça me dérange. Moi, je travaille dans un camp, je suis occupé à l'os, ben des mois par année. Et là, ça vient, déranger. Dans mon confort, ça vient me sortir de ma zone de confort. Mais si David Tripp a raison, si c'est une idole dans ma vie, hein, si notre confort, notre contrôle est au centre de notre vie, est-ce qu'on va s'attendre à ce que nos enfants cherchent autre chose? Hein, est-ce qu'ils vont pas suivre notre exemple et amener notre idolâtrie encore plus loin? Hein, lorsqu'on examine le livre des juges, on voit que l'idolâtrie, que la génération qui suit est toujours pire que la génération d'avant. L'idolâtrie va en grandissant. Il y a une progression vers le mal. Et on a une responsabilité en tant que parents de reconnaître nos idoles. Dans l'engrenage présenté dans le livre des juges, dans ce cycle-là, la conséquence de se tourner vers les idoles, c'était un état de détresse accablante qui les poussait à la repentance. Lorsqu'ils se tournaient vers les idoles, ultimement, ça les amenait dans un état de détresse. Et là, ils se tournaient vers Dieu. Ils se repentaient. Et comme dans le livre des juges, nos difficultés relationnelles avec nos enfants, avec notre conjoint, avec d'autres personnes, peuvent devenir une source de détresse accablante. Ça devient lourd. Nous, on trouve nos relations difficiles. Et lorsqu'on vit ça, c'est encore une occasion de se demander, est-ce que ces difficultés-là sont là à cause de mes idoles? Et c'est une occasion de se repentir. C'est une occasion de demander pardon, d'avoir le courage de faire les changements nécessaires dans notre vie. Lorsque le peuple se repentait, Dieu pourvoyait à un chef pour les sauver, à un juge. Malheureusement, ce chef-là, il n'était pas parfait et il pouvait venir à les secourir que pour un certain temps, de façon temporaire. Mais le livre des juges pointe vers un chef par excellence qui allait venir et délivrer de façon parfaite. Et le Nouveau Testament nous présente ce chef par excellence comme étant Jésus, le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu. Hein, les juges étaient des envoyés de Dieu temporaires. Dans les juges, on voit que les juges étaient des envoyés de Dieu temporaires. Jésus, lui, est l'envoyé de Dieu permanent, par excellence. Et pour ceux qui ont mis ou qui mettent aujourd'hui leur foi en Jésus-Christ, vous êtes en relation avec un chef par excellence. Les preuves que le peuple, à l'époque des juges, que toute l'humanité jusqu'à nous n'a pas réussi, Jésus, l'envoyé de Dieu, le chef par excellence, l'a réussi. Et parce qu'on a ce chef-là, on peut reconnaître notre faillite spirituelle, notre besoin d'être délivré de nos idoles qui nous oppriment. Notre chef est fidèle pour nous délivrer. Hein, nos enfants, ils ont besoin de voir nos faiblesses et les changements que Dieu fait dans notre vie. Ils ont besoin de voir la grâce de Dieu à travers nous. Et lorsque nos enfants sont témoins de ça, de cette grâce-là dans notre vie, bien, on devient des témoins vivants, un outil entre les mains de Dieu, pour eux, pour leur propre salut. Être parent, ça ne veut pas dire faire les quatre volontés de nos enfants, leur permettre de contrôler la vie de la famille. Hein, nos enfants aussi ont des idoles. Hein, les adolescents, entre autres, l'apparence, la possession, les happy-nouches de toutes sortes, être accepté. Notre rôle en tant que parents, c'est d'aider nos enfants à reconnaître leurs idoles et à les conduire au chef par excellence, qui est Christ. Comme nous-mêmes, on reconnaît nos propres idoles et on se tourne vers Christ pour trouver grâce. Parce que Dieu a pourvu un chef par excellence, le cycle sans fin de l'idolâtrie qui nous est présenté dans les juges peut prendre fin. Le cycle sans fin peut prendre fin. Et avant de conclure ce matin, j'aimerais parler d'un dernier danger de l'idolâtrie. Tout comme à l'époque du peuple d'Israël, du temps des juges, on vit à une époque et dans une société remplie d'idoles et entourée de nombreux dieux. Et pour la plupart d'entre nous, ici présent ce matin, on reconnaît que le Dieu de la création existe. On reconnaît le Dieu créateur. Hein, la preuve, c'est qu'on est venu ici ce matin pour le célébrer. Hein, on aurait pu rester couché, on a perdu une nuit de sommeil, une heure de sommeil, on aurait pu rester couché un matin, mais on a fait l'effort de venir ici dans ce lieu tous ensemble pour célébrer l'Éternel, le même Dieu que l'Israël du temps des juges il y a 3000 ans. Ce même Dieu-là, on est venu pour le célébrer ce matin. Mais le danger, c'est de croire que parce qu'on a fait cet effort-là, parce qu'on fait cet effort-là à tous les dimanches et peut-être même dans la semaine dans des groupes de prière, qu'on est à l'abri de l'idolâtrie. Que l'idolâtrie, c'est pour les autres. Eh bien, malheureusement ou heureusement, le livre des juges nous enseigne que l'homme a la capacité d'adorer plusieurs dieux en même temps. Juge 2:19 nous dit, « Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Hein, » ils n'ont pas arrêté d'adorer l'Éternel pour un dieu. Non, il y en avait plusieurs. Ils étaient capables d'en adorer plus qu'un à la fois. Et ça, ce n'est pas différent pour nous aujourd'hui. Hein, dans notre monde, le nombre de dieux est tellement abondant, c'est facile d'adorer plusieurs dieux en même temps. On croit que l'Éternel est notre Dieu. On lui accorde même la première place dans notre vie. Mais Dieu partage notre cœur avec les idoles. Dieu est colocataire de notre cœur. Il est là, mais il y a des colocs. Dieu a la première place. Oui, Dieu, tu as la première place dans ma vie. Mais il n'y a pas la seule place. Il n'est pas le seul Dieu dans tous les domaines de notre vie. Ah, il est le Dieu à 100% le dimanche matin, à 100% le mercredi soir dans les groupes de prière. Mais au travail, je suis prêt à faire certains compromis pour décrocher un contrat ou avoir une promotion ou pour cacher une faute professionnelle. Dans mes finances, je connais un très bon comptable quand ça vient le temps des impôts. Dans mes fréquentations, j'ai des relations sexuelles avec mon chum, ma blonde, avant le mariage. Ça ne change rien. Pourquoi je vais me marier de toute façon avec elle? Bref, on fait des compromis avec les commandements de Dieu. Parce que notre cœur est partagé avec des idoles. Dieu n'est pas le seul Dieu dans tous les domaines de notre vie. C'est un Dieu parmi tant d'autres. Et vivre dans un monde entouré d'idoles, c'est un défi constant. Puis on pourrait en vouloir à Dieu. Pourquoi est-ce que tu me laisses devant toutes ces tentations-là, devant tous ces dieux-là? Pourquoi est-ce que tu me laisses m'embarquer dans un engrenage qui m'amène à souffrir, qui m'amène dans un état de détresse? Et quand on lit les juges, on voit que pourquoi est-ce que Dieu a permis aux nations étrangères de maltraiter son peuple, de les amener dans un état de souffrance et de détresse? Est-ce que c'était une conséquence de leurs actes d'idolâtrie? Certainement. Mais ultimement, le but de Dieu, dans sa grâce, c'était que le peuple d'Israël, dans sa détresse, se tourne vers lui, reconnaisse leur réel besoin de Dieu, reconnaisse leur idolâtrie, se dise « Aïe, aïe, je souffre là à cause de ces dieux-là, je vais me tourner vers le vrai Dieu. » C'est ça que Dieu voulait, c'est pour ça qu'il permettait, qu'il permet que lorsqu'on est dans l'idolâtrie, on en souffre. Hein, ces nations, on voit ça au chapitre 3, verset 4, « Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Dieu désire être notre seule source de dépendance. » Notre seul Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à pouvoir nous combler pleinement et de façon durable. Alors, j'ai quelques questions pour vous ce matin. Est-ce qu'on est des adorateurs de la création ou du Créateur? Hein, est-ce qu'on cherche notre satisfaction dans les choses physiques de la terre ou en celui qui pourvoit à toutes ces choses physiques-là? Quel modèle est-ce qu'on est pour la génération future? Hein, est-ce que nos enfants sont témoins de nos faiblesses et des changements de la grâce de Dieu dans notre vie? Des changements que Dieu opère parce qu'on reconnaît nos faiblesses, on reconnaît nos idoles. Est-ce que Dieu a des colocs dans notre cœur? Est-ce que Dieu a la première place ou est-ce qu'il a la seule place dans tous les domaines de notre vie? Si tu reconnais ce matin que certaines idoles dans ta vie t'empêchent de vivre la paix et la liberté tant désirées, hein, tu te sens pris dans un engrenage sans fin. Peut-être que tu as même perdu l'espoir d'un jour avoir la victoire sur ta dépendance. Tu te dis, je l'ai encore fait. Tu es tanné d'espérer dans les choses qui te laissent toujours vide. Eh bien, si tu vis cette situation de détresse, si tu reconnais cette situation de détresse dans ton cœur, c'est que Dieu t'appelle à lui. Il ne veut pas que tu restes là. Il désire prendre toute la place. Il désire te combler de sa présence. Il désire te libérer de ton fardeau. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » On a le privilège ce matin, lorsqu'on reconnaît notre idolâtrie, lorsqu'on reconnaît que Dieu est coloc, de pouvoir se tourner vers notre chef par excellence, de pouvoir saisir sa grâce, de pouvoir profiter de la paix qu'il nous donne. Alors, tournons-nous vers lui ce matin. Je vais prier pour conclure. Seigneur grand Dieu, lorsqu'on lit les juges, lorsqu'on lit ces textes qui nous paraissent lointains, on ne peut pas faire autrement que de se reconnaître dans leur difficulté à adorer l'Éternel, à adorer le Dieu de la création, à adorer le seul vrai Dieu. Seigneur, on doit reconnaître qu'on a souvent des cœurs partagés. Et Seigneur, on veut te demander pardon. Pardon parce qu'on a, on dit que tu as la première place, mais on ne te laisse pas toute la place. Tu n'es pas le seul à régner dans notre cœur. Mais Seigneur, merci parce que lorsqu'on reconnaît ça, lorsqu'on est prêt à s'humilier devant toi, à se repentir, tu ne nous laisses pas là. Tu as pourvu un chef par excellence qui nous permet de goûter à ta paix à nouveau, de se retrouver dans une paix renouvelée, d'être délivré de nos esclaves, de l'esclavage de notre idolâtrie, Seigneur. Merci parce que tu pourvois encore aujourd'hui au salut pour chacun d'entre nous. Alors, Seigneur, on te remet nos vies. On te remet les chants qui s'en viennent, qu'on puisse adorer d'une façon libre parce qu'on reconnaît que tu es le seul vrai Dieu. Amen.